Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur Super Laser Punch. Alors, il y a des punchs, hein. Je sais même pas si dans les épisodes 4, 5, 6 de The Last of Us, la série télé HBO, il y a des punchs. Il doit y en avoir, on va partir du principe. Donc, c'est bon, on peut en parler. Je suis Patrick Béja et dans cette émission, généralement, on parle de trucs de super-héros, de choses avec des super-pouvoirs, ce genre de choses. Mais comme on aime bien la série Last of Us, à vrai dire, comme on aime beaucoup la série Last of Us, on s'est dit qu'on ferait une des nombreuses exceptions qu'on fait de temps en temps. Je suis Patrick Béja, et là, à côté de moi, il y a Johan. Comment vas-tu, Johan ?
Eh ben, ça va super, parce que, bon, cette fois-ci, on va parler de trucs qu'on aime beaucoup. Donc, du coup, c'est
marrant de parler
sympa.
De trucs qu'on n'aime pas aussi, parfois. Hein,
C'est marrant, mais ouais, il faut pas que ça devienne le cœur principal de l'émission.
Ouais. On est d'accord. Du coup, là, on va parler de The Last of Us. Alors, on avait déjà évoqué les épisodes 1, 2, 3 qu'on avait adoré. Et là, on va parler des épisodes 4, 5 et 6. Et ça sera donc le milieu de la série. Il y aura pour la fin, donc, les trois derniers, 7, 8, 9, dont on vous parlera dans 3 semaines. On a déjà parlé de tout ça. Allez écouter l'épisode sur les 1, 2, 3 si vous voulez avoir le contexte. On va pas vous refaire l'histoire des cordyceps et de Joël et Ellie, tout ça. On enchaîne direct et on enchaîne. On va pas se soucier de sans spoiler ou avec spoiler. Hein, sur une série au milieu, ça va à un moment. On va juste parler des épisodes. Donc si vous les avez pas vus, je vous recommande vraiment d'arrêter d'écouter et d'aller les regarder. L'épisode 4 s'appelle « Please hold my hand » et c'est l'épisode où Joel... C'est presque un... Non, c'est pas vraiment un arc, mais disons que, je dirais, les 4 et 5 sont deux parties d'une même, presque d'un même épisode. C'est l'arc Kansas City, un petit peu. Et donc, Joel et Ellie doivent passer par Kansas City et là, ça se passe mal. C'est la première fois où on a vraiment... la confrontation classique des films de zombies où le vrai danger, c'est pas les zombies, c'est les hommes, c'est les autres. Et là, on a donc ce début où ils se font attaquer, ils se défendent, ils s'échappent, ils fuient, ils se cachent. Et on a l'histoire de, comment elle s'appelle, Kathleen, qui pourchasse pendant le même temps Henry et Henry, dont on ne sait pas trop de qui il s'agit, Henry, et on découvre à la fin de l'épisode son petit frère Sam. Qu'as-tu pensé de cet épisode 4, Johan ?
Vraiment très bien. Là, suite à l'épisode 3, moi, je suis un petit peu plus embarqué, on va dire, dans la série qu'avant ça. Ouais. Mais on retourne quand même dans quelque chose d'extrêmement proche, hein, de ce qu'on connaît du jeu vidéo. On retrouve les scènes et tout, mais voilà, il y a Kathleen, ce personnage qu'on connaît pas, qui arrive au milieu de tout ça pour parler de révolution, en fait, hein, de la révolution, la nécessité de la révolution, mais en même temps les horreurs que ça peut amener, etc. Ça y est, quoi, moi je suis embarqué dedans. J'ai trouvé ça vraiment très très bien. Je continue d'être émerveillé par ce Joël et cette Ellie. Qui je trouve vraiment vraiment super juste, en fait, dans leur interprétation du truc, que ce soit quand ils reprennent mot pour mot les dialogues que je connais, ou quand ils vont vers justement d'autres choses, et donc moi j'ai trouvé
quelque chose d'un peu plus
c'est quelque chose que je vais dire pour les trois épisodes, quoi. Moi je trouve que la production value, enfin ça y est, tu vois, c'est quelque chose que j'arrivais pas vraiment à voir avant ça. Là, pour moi, ça y est, je trouve vraiment la série vraiment très très bien.
Moi, le truc qui m'a... Tu t'évoquais Kathleen, et c'est vrai qu'elle est correcte. Moi, je la trouve bien comme méchant sur cet arc de deux épisodes. Le truc qui m'a marqué dans cet épisode, c'est le début où on a l'arrivée à Kansas City où ils doivent fuir et ils se crachent dans un magasin. Et on a du coup ce truc qu'on sentait dans les trois premiers épisodes, ou plutôt les deux premiers épisodes, qui est le moment où Ellie va devoir utiliser une arme. Et donc cette scène-là où Joel la protège et elle tire sur, je ne sais plus comment il s'appelle, le type qui était en train de l'étrangler. Cette scène, pour moi, est vraiment incroyable parce que c'est un truc qu'on a vu plus ou moins, mais pas vraiment comme ça dans tous ces films qui tournent autour des mêmes problématiques, des mêmes concepts de l'homme est un loup pour l'homme, mais en fait, l'homme est un homme quand même. Et donc, quand tu te rends compte que... Il y a beaucoup de films et de séries qui ont joué avec ça, plus de séries de zombies d'ailleurs. Genre, la nécessité fait que tu deviens un tueur sans merci. Et puis, quand tu es en face du tueur sans merci et que tu regardes dans ses yeux, tu te rends compte que c'est une personne aussi. Mais la situation et la manière dont c'est fait et la manière... J'ai jamais vu, en fait. J'aimerais retrouver son... C'est Frank, c'est ça ? Je crois que c'est...
C'est le, enfin, tu parles
du type qu'il tue
ouais, Ryan.
De sang-froid. Ryan, ok. Et il dit « Ah, je m'appelle Ryan, ma maman m'attend, machin. » Et là, tu as un moment, une scène en deux minutes qui prend une intensité dramatique parce que tu comprends évidemment le fait que Ryan les ait attaqués et ait voulu les tuer. Et puis tu comprends qu'il soit défendu, qu'il lui tirait dessus. Et tu comprends que Ryan se mette, là, comprenne qu'ils vont le tuer et donc se mette à se transforme sans doute un peu en jouant, mais on ne peut pas savoir, en enfant désespéré. Et tu comprends la terreur, la tristesse, la difficulté de la situation dans laquelle est Joel, qui doit le tuer, parce que là, il est au milieu d'une ville ennemie, il sait que s'il le laisse vivre, bah, ça va forcément leur causer du tort, et ça les met en danger. Pas juste, ah merde, ils vont se rendre compte qu'on n'a pas payé nos impôts, donc ils vont nous attraper, tu vois, ça les met en danger, leur vie est en danger. Et tu comprends la dureté de Ellie qui l'a fait, mais qui comprend qu'il va devoir le tuer, donc elle va se cacher, il lui dit va te cacher, n'écoute pas, et donc elle doit s'endurcir encore plus. Enfin, dans cette scène, il y a tout, quoi. Il y a tout, et tout fonctionne. Contrairement à ce qu'on disait peut-être dans un épisode précédent sur un film, mais tout fonctionne. Et cette scène m'a vraiment marqué et affecté, quoi. Donc, moi, c'est ce que je retiens de cet épisode, je crois, encore plus que toute la partie avec Kathleen et ces trucs-là. Et le fait de... qui est bien aussi, mais qu'on a peut-être un petit peu plus eu. Ah, t'es le docteur. Le docteur qui dit, mais c'est moi qui t'ai, comment on dit, delivered. C'est moi qui t'ai fait net, tu vois. J'étais pris dans mes mains et machin. Et... Bon. Ça, c'est la scène qui m'a vraiment... qui m'a vraiment marqué, quoi.
Ouais, alors il y a dans la scène du docteur, pour moi j'ai vu un peu un parallèle hein, avec la scène d'Ellie et Joel, quoi. C'est-à-dire que Kathleen va tuer quelqu'un, tout comme Ellie et Joel ont tué quelqu'un. Ouais. Et je pense qu'il y a une volonté justement de parallèle là-dessus. Moi, ce personnage de Kathleen, je le trouvais vraiment très bien. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont pas trouvé top. Moi, je la trouve bien, plutôt juste d'ailleurs dans ses motivations et dans ce qu'elle fait.
On n'a pas l'habitude de voir une personne normale. On en a parlé d'ailleurs sur le Discord. On n'a pas, au-delà du fait que ça soit une femme ou pas une femme, on n'a pas l'habitude de voir une personne normale qui soit un chef de gang cruel et révolutionnaire. D'habitude, c'est genre le mec avec les flingues ou Et là, le gros mec barbu avec les flingues, il suit les ordres de Kathleen. Donc, je comprends qu'on n'ait pas l'habitude, mais moi, ça ne me gêne pas. Et en plus, je pense que quand tu vois les gens qui sont des vrais tyrans, j'ai l'impression que c'est plus des mecs normaux que les gros bodybuilders avec 40 flingues. et des tatouages, quoi.
Mais du coup, en fait, tu vois, il se passe pas grand-chose hein, en termes, tu sais, séquencement d'événements dans The Last of Us. C'est-à-dire que les épisodes, finalement, si tu pourrais les résumer, bah là, on l'a fait, hein, on a dit tout ce qui s'est passé, en fait, ça y est. Mais en fait, il y a une vraie... Il y a de vraies conséquences émotionnelles à chaque fois. Hein. Ils prennent à chaque fois le temps de poser tout ça, déjà de le faire bien, et puis ensuite de montrer comment ça va agir sur la psyché des personnages et faire évoluer les relations. Parce que du coup, suite à ce que Ellie a fait, Joël, son point de vue sur Ellie va changer. Le point de vue d'Ellie sur Joël va changer aussi, et du coup, ils vont. Bah, tu vois, c'est ça qui avance, et pas forcément. Il n'y a pas forcément beaucoup d'avancées, on va dire, séquentielles des événements. Et du coup, il y a d'autres produits, il y a d'autres séries qui font ça, hein, c'est pas un truc tout à fait nouveau, mais du coup, je trouve que ça participe à remplir un truc qui est super important dans le jeu, en fait. Et justement, il y a tous ces moments où tu fais juste marcher, où il ne se passe rien, tu as des dialogues entre les personnages, de nouveaux éléments dans leur relation, et ça, je trouve qu'ils arrivent finalement à assez bien le rendre dans la série. Et du coup, là, il y a plein de moments entre Joël et Ellie, il lui apprend à tenir l'arme, il me semble, je crois que c'est là. Et puis, de l'autre côté, on a présenté un nouveau personnage qui est voilà aussi... va avoir que deux épisodes, et je trouve qu'en deux épisodes, c'est un personnage qui est quand même assez étoffé, finalement.
La fin, c'est là encore cette relation, comme tu dis, qui évolue un petit peu entre Joël et Ellie, où, en fait, Joël est le protecteur d'Ellie, et quand elle prend le flingue, elle devient « je peux un petit peu me protéger moi-même, et en plus, je peux te protéger aussi un petit peu ». Et quand ils vont dormir en haut de l'immeuble, il met le verre partout en disant « Non, mais j'entendrai si jamais il y a un problème. » Et évidemment, il se réveille et pointé au bout du flingue de Sam. Et donc, il ne s'est pas réveillé. Il n'a pas réussi à la protéger encore une fois, tu vois. Donc, c'est la fin de cet épisode. L'épisode 5, du coup, commence... On voit le flashback, le time-lapse de Sam et Henry qui essayent de survivre dans la ville où, et on apprend qu'ils sont des informateurs sur la, pour le, là le, comment ça s'appelle, c'est FIMA qui a été non c'est FEDRA pardon, c'est pas FIMA FEDRA qui a pour le coup été qui a complètement déraillé et qui était devenu une sorte de truc encore plus totalitaire qu'on voit que ce qu'on voit dans les épisodes précédents où il disait il y avait des meurtres, des viols, des machins, et donc la révolution de Kathleen se justifie, et on comprend que Sam que Henry pour aider Henry pour aider Sam qui a une leucémie a été un informateur et donc a causé la mort du frère de Kathleen. Et donc, Kathleen... y a une scène assez, assez forte, d'ailleurs, dans la chambre du frère, où elle dit au mec barbu avec ses flingues, ou je sais plus... Oui, je crois que c'est à lui qu'elle dit. Elle dit, mon frère, il disait qu'il fallait pardonner, machin, mais moi, je suis pas comme ça, etc. Tu sens sa dureté et qu'elle en est consciente.
Et du coup, ce bras droit, il répond quelque chose aussi de super intéressant en disant ton frère, je veux dire, oui, effectivement, il était comme ça. On l'aime tous, c'était quelqu'un de super important, mais quand c'était lui le chef, il ne se passait rien, quoi. Ouais. C'est que depuis que tu es là, qu'on a réussi à sortir de cet état d'oppression totale, etc. Donc, il y a aussi ce discours de, effectivement, il y a peut-être deux facettes à la révolution, et il y a peut-être une facette qui est importante pour réussir justement à renverser les choses, quoi. Donc il y a ça, et il y a aussi le développement de toute une thématique qui est super important pour Neil Druckmann et qui couvre un peu de toute la série et ce qui est la notion de justement de méchant gentil, quoi. Et il y a moi c'est le discours que j'ai retenu sur cet épisode là c'est la partie où Henry justement explique à Joël ce que lui il a fait, qu'il avait du coup effectivement été collabo dans cette
collaborer le bon terme.
Voilà, et qu'il avait balancé du coup le chef de la résistance. C'est pas une révolution, c'est une résistance. Et du coup, sur la notion justement, c'est qui un gentil, c'est qui un méchant. Est-ce qu'on, tu vois, lui finalement, il a fait des trucs vraiment de méchant. Du coup, c'est un méchant, etc. Enfin, en gros. Disons qu'il y a quand même
pour avoir de quoi soigner la leucémie de son frère, tu vois, c'est justifié un petit peu.
Bien sûr, mais je pense que le sujet, c'est de dire que en fait, personne se voit comme le méchant. Tout le monde a sa justification dans son système moral et fait des choix, des dilemmes, etc. Et Kathleen est aussi là-dedans finalement, parce que du coup, elle a aussi pour mission finalement de, à la fois, il y a la notion de vengeance, mais il y a aussi la notion de purger un petit peu les personnes qui ont violé, tué d'autres personnes, tu vois, de leur
ou les collabos qui sont responsables.
Point, etc. Des collabos qui sont responsables de mort de plein de gens, parce que tu peux imaginer que suite à la collaboration d'Henry, peut-être qu'il y a eu d'autres conséquences que juste le frère, quoi. C'est aussi peut-être tout le groupe, il y a peut-être d'autres enfants qui sont morts suite à ça, etc. Tu vois, donc c'est ça que j'ai retenu vraiment, que j'ai trouvé intéressant dans cet épisode-là, parce que pour le coup, c'est une thématique, pour ceux qui ont fait les jeux vidéo, savent qu'elle est assez centrale dans l'écriture de The Last of Us. Et du coup, il y a quasiment un petit résumé, un petit condensé sur cet épisode-là de cette vision des choses. Quoi.
Ouais. Et du coup, ça, c'est la première partie de cet épisode 5. Et la deuxième partie, c'est un truc un petit peu plus action, où il s'échappe de la ville et il commence à voir le bout du tunnel. On imagine... Il parle des infectés et on se dit « Ah, dans les tunnels, ils vont se faire avoir » et tout. Il y a cette scène un petit peu émouvante où on a les enfants... Enfin, ils arrivent dans une école et Ellie commence à se lier un petit peu d'amitié avec Sam, etc., etc. Et puis, ils sortent. Et bien sûr, la grosse scène d'action où, là encore, on a le parallèle avec les aspects vraiment gaming, ludique, gameplay du jeu qui sont hyper forts, où il y a le sniper un petit peu loin, et ils disent « Ok, on va choper le... Restez là, moi je vais aller le choper. » Il le chope effectivement, et là encore, il se rend compte que c'est un vieux et lui dit « Non, mais le fais pas, il le fait, il doit le tuer. » Et du coup... On se retrouve dans cette situation de gameplay où, qui existe dans le jeu d'ailleurs, où on se retrouve avec le fusil de sniper. Enfin, Joel a le fusil de sniper et il va protéger les autres de son de cette arrivée de Kathleen et de ses troupes. Et puis l'effondrement du sinkhole où les zombies sortent tous et là c'est le bordel. Et Henry essaye d'aider, enfin aide Ellie et Sam, Joel le voit. Et puis ensuite, il s'échappe. On laisse la dernière partie peut-être pour après. Mais cette scène, moi, je l'ai trouvée très cool, belle scène d'action. Ça fonctionnait, quoi. Il n'y a rien à redire. Tout fonctionnait. Et ça m'a bien refait pomper le sang dans les veines après un épisode et demi un petit peu plus calme, quoi.
Je m'attendais pas à ce qu'ils utilisent du coup le gros zombie là,
le bloater,
le bloater, ouais. C'est ça. Parce que du coup, ça c'est, tu vois, c'est un marqueur un peu de jeu vidéo où t'as différents types de zombies pour avoir différentes mécaniques un peu différentes, etc. Et du coup, super impressionnant, quoi. Alors je sais pas comment est-ce qu'il l'explique un petit peu dans le comme dans l'univers de la série, mais super scène.
Mais il explique pas. Je trouve que c'est justement
non,
qui est bien, tu vois.
Non, forcément besoin. Non, il n'y a pas besoin.
Ouais, il y a juste, oh, bah, c'est un truc, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ils n'en parlent pas. C'est pas genre, ah, mais qu'est-ce que c'est? Attends, mais à la phase 2 de développement des machins avec les cordyceps, ils passent à ça, et puis ensuite, ils passent au ticker. Et puis, t'as pas besoin. C'est un truc, c'est tout le monde, what the fuck? Et puis, c'est... J'espère que ça sera le seul moment où on en voit un. Tu vois, on n'a pas besoin d'en voir deux ou trois ou quatre fois. Une fois, ça suffit, quoi.
Bah déjà, comme il y a beaucoup moins de séquences zombies aussi, effectivement, il n'y a pas besoin. Et du coup, la scène, alors moi, la scène que j'ai trouvée très chouette, c'est la scène avec du coup Ellie avec l'autre enfant zombie dans la voiture, là, coincé dans la voiture.
Ouais.
Je trouve ça vraiment stressant et palpitant, là, ce moment, vraiment, j'étais vraiment accroché. Et puis, bah, je ne m'attendais pas à ce que tout ce beau monde qu'on avait présenté.
Tu veux dire Kathleen et tous les autres
Kathleen et tous les autres disparaissent, quoi. Je m'attendais à ce que ça y est, que ça allait être une accroche pour la suite. Et en fait, non. Tout le monde est décimé par cette vague. Cette vague de zombies qui était donc si j'ai bien compris, ils avaient été tous regroupés en sous-sol en mode on les oublie. Il y a une mention de ça dans l'épisode d'avant là où on sent qu'il y a du bruit, tu sais, il y a une porte fermée là et ils parlent devant avec Kathleen dit on s'en occupera plus tard, etc. Mais du coup,
oui, c'est ce qu'il disait. La Fedra les avait tous poussés sous le sol, et puis on ne sait pas trop où ils sont. Et c'est pour ça qu'on pensait qu'ils allaient les rencontrer en traversant les tunnels
pour passer
de l'autre côté. Et donc on ne sait pas où ils sont effectivement. Et on avait déjà eu un effondrement dans un épisode précédent. Enfin, ça avait été foreshadowé en tout cas le fait que. Ça peut. Donc oui, il se trouve qu'ils étaient là. Et par rapport à ce que tu dis sur le fait qu'ils soient morts, tous les autres, je trouve qu'on n'a que 9 épisodes dans cette série. Et le fait qu'ils aient évacué ça fait vraiment un passage et ça aide à l'idée du voyage. Parce que 9 épisodes, je trouve que ce n'est pas énorme pour présenter les personnages, présenter le monde, présenter les enjeux, les faire évoluer, etc. Et donc là, en 2 épisodes, effectivement, t'as l'impression qu'ils ont vécu un truc et qu'on avance. Et donc, là, c'est l'épisode, enfin, l'épisode dans le sens, dans le cheminement, Kansas City, et tu commences à en avoir plusieurs, tu vois, et tu sens à force que, bah, ils ont traversé des trucs, ils ont vécu des trucs, et ça permet de faire passer le temps et de ressentir qu'ils ont voyagé là où ça n'aurait pas forcément été le cas s'ils avaient passé plus de temps ou si les personnages de Kansas City étaient encore là et les avaient pourchassés encore, tu vois. Non, là, on est passé à autre chose. Et d'ailleurs, dans l'épisode suivant, on est 3 mois plus tard. Donc, on sent bien que... oui, on est complètement... Avant de passer à l'épisode suivant, il y a quand même la scène finale de l'épisode 5 qui est importante. Ouais. Mais oui, je trouve que c'est bien qu'ils soient... qu'ils les aient pas, tu vois, qu'ils aient pas étalé la confiture, quoi.
Ouais. Bah, du coup, cette séquence finale.
Ouais. Qui est là pour le coup 100% celle du jeu, quoi. Toutes les séquences fortes, c'est celle du jeu.
Ouais. c'est vrai, c'est exactement celle du jeu. Je l'avais faite juste avant, parce que du coup, ouais, je refais.
Tu rejoues en même temps, tu suis.
Je rejoue au remake, en quasiment, ouais, je prends un peu d'avance dans le jeu, puis après je vois comment ça s'est fait dans la série. Et du coup, c'est effectivement les mêmes dialogues. Alors ils ont adapté ça au fait que Sam dans la série est muet. Et du coup, je trouvais ça assez bienvenu d'ailleurs comme développement de personnage. Du coup, tous les justement avec son petit tableau où il écrit les choses, etc. Et du coup, la grosse, on va dire la grosse différence ici, c'est que du coup, Ellie est au courant que Sam est infecté et va essayer d'utiliser son super pouvoir à elle pour essayer de le soigner. Toi, tu, dans ta télé, tu dis bah, c'est responsable, elle va se faire bouffer dans la nuit. etc. Et c'est pas loin, hein, c'est pas loin. Mais du coup, terrible scène hein, du frère qui tue son petit frère comme ça.
C'est vraiment. Est-ce que le rythme de cette scène est le même dans le jeu? Je m'en souviens pas. Là, j'avais l'impression que c'était. Ouais, c'est ça, quoi.
La séquence, en fait, à partir du moment où ils arrivent dans la pièce où il y a les deux autres, du coup, Sam est sur Ellie, l'hésitation avec d'abord, Henry qui empêche Joël de faire quoi que ce soit et puis qui finalement retourne l'arme contre lui. C'est vraiment les mêmes timings.
D'accord.
Et c'est tout aussi difficile, quoi.
Ouais. Quelle maîtrise de Neil Druckmann quand même dans sa mise en scène des jeux. que ça... Enfin bon, je reste vraiment admiratif. Il y aurait des choses à dire sur la relation de Neil Druckmann et Naughty Dog et les autres stewards des jeux chez eux, bref. Mais oui, donc oui, c'est une scène évidemment. Enfin, nous, tu vois, nous, on le savait. Ouais. Et malgré ça, ça a une certaine portée. J'ose même pas imaginer les gens qui n'avaient pas, qui ne connaissaient pas le déroulement de ces événements-là, le choc que ça doit faire, quoi. Enfin, si, je peux imaginer parce que je l'ai vécu en jouant au jeu la première fois, mais ça fait un moment.
J'ai partagé un sketch, je sais pas si tu l'as vu, mais d'un couple qui regarde The Last of Us et le mec a déjà joué au jeu vidéo, et du coup, le sketch commence sur la femme qui dit « Ah, chouette, ça, oh, Sam, il est trop sympa, trop rigolo. Et t'en penses quoi ?» Et le mec à côté en pleurs, « Ah, oh, c'est vrai, il est chouette. Mais pourquoi tu pleures ?»
Ouais, c'est exactement ça. Parce qu'en plus, tu dis, bah, encore une fois, avec The Walking Dead, on a l'habitude des personnages importants qui meurent et des enjeux comme ça de ce type qui finissent par se briser, etc. Mais c'est quand même un cran au-dessus. Peut-être pas un cran au-dessus, mais en tout cas, ça fonctionne avec The Last of Us également. Donc, ils enterrent les deux et ils continuent à marcher. Et on se retrouve dans l'épisode 6, 3 mois plus tard, avec cette scène d'introduction qui est vraiment bien foutue, où ils arrivent chez les... Je pense que c'est des Native Americans qui sont dans leur petite cabane. Et qui, leur dialogue est hyper bien foutu. Est-ce que tu me dis la vérité ? Est-ce que tu leur as dit la vérité ? Oui. Est-ce que tu me dis la vérité ? Oui.
Elle est très drôle, cette nana, là. Ouais. Dans son fauteuil, dans son rocking chair, là.
Je la trouve très bien. Des personnages qui n'étaient pas dans le jeu.
Tu vois, elle est chouette, cette scène, parce qu'effectivement, tu vois la prudence nécessaire, en fait, tu vois. Dès que tu parles à quelqu'un que tu ne connais pas, d'être le dominant, d'être celui qui a les armes et qui s'assure que, même si t'es bien intentionné, qui s'assure que tout va bien, quoi.
Ouais.
Tu peux pas avoir confiance vraiment du tout en personne. Et en même temps, ces personnages qui sont vraiment très, très sympathiques, etc., il y a eu une dose d'humour dans cette séquence-là. Donc à la fois la tension de tu sais pas trop ce qui va se passer et un peu justement le côté un peu cocasse de ce couple là au milieu de nulle part, qui ont pas bougé. D'ailleurs, c'était déjà leur maison avant la pandémie, et qui n'ont jamais vu personne.
Ça me fait penser à la pandémie de Covid-19, puisque moi je vis en Finlande dans la forêt, mais vraiment dans la forêt, comme j'en parle souvent. La maison la plus proche, c'est à 2 km. Et pendant les confinements, pour moi, alors évidemment, ça a un peu changé parce que mon fils était à la maison, il fallait faire attention quand on allait dans les magasins, tout ça. Mais je suis un petit peu, comment ils s'appellent, les deux, là, j'étais déjà ici de toute façon et je vivais ici. Bon, moi, je sors dans la forêt, je vais me balader dans la neige, tu vois, ça change pas tellement par rapport à avant. Donc, ça m'a un peu fait penser à ça, mais sans les risques de personnes armées. On n'est pas encore arrivé à ce stade, tu vois. On n'est pas arrivé au stade des personnes armées qui arrivent et qui disent « Oh, c'est par où la civilisation ?» et donc, après...
Il y avait des gens qui volaient les masques. Il y avait des gens qui braquaient les ambulances pour récupérer des masques.
Ah, c'est vrai, ça, j'en ai pas vu. Au début. Et donc, ils traversent ensuite la rivière de la mort, c'est très... Pardon, je trouve que c'est très bien d'amener cette légende créée par la communauté de Jackson, de la ville, que par chez nous, c'est la mort, il ne faut pas s'y aventurer, parce que de toute façon, vous n'en ressortirez pas, machin. Et Joel retrouve son frère, c'est la raison pour laquelle il était venu. Et on voit une communauté qui s'est vraiment reconstruite, pour le coup, avec des enfants qui courent, des cinémas, des écoles, de l'électricité, etc., etc. Et cette séquence est le moment où Joel se brise, finalement, et décide d'abandonner d'abandonner Ellie et demande à son frère de la prendre et lui révèle qu'elle est immunisée, etc. Est-ce que tu trouves que ça a fonctionné, cette partie ?
Je trouvais que il avait. Alors, je ne peux pas m'empêcher hein, de forcément comparer à ce que je connaissais déjà, mais du coup, là, je trouve qu'il a des arguments très sérieux, Joël, pour laisser Ellie à son frère, et j'en suis ressorti vraiment en mode, effectivement, ça aurait été mieux que ce soit le frère qui s'en occupe, quoi. Vraiment, parce que du coup, là, on a un Joël qui est super affaibli, qui fait des crises d'angoisse au milieu de la forêt, qui s'endort pendant ses tours de, enfin, alors qu'il est censé faire de garder, etc., machin. Et
oui, ce qu'on a revu les enjeux... au début de l'épisode encore.
C'est ça. Et les enjeux que porte Ellie pour l'humanité sont tellement grands que effectivement, il m'avait convaincu moi aussi, tu vois.
Bon, disons qu'il pourrait y aller avec eux. Il n'est pas non plus obligé de laisser son frère tout seul, tu vois. Démerde-toi. Mais il n'y a pas que ça, évidemment. On sent et c'est amené de manière même pas très subtile, et on le comprend bien, le fait qu'il veuille pas. Parce que sa fille et qu'il veut pas se réattacher et que machin et qu'il a peur. Et d'ailleurs ces crises d'angoisse, enfin clairement c'est ça. Pas être psychologue. expert
non, c'est assez gros sabot finalement. Enfin
gros sabot, c'est, je veux dire, c'est facile à comprendre, mais c'est normal quoi.
Non mais oui, je veux dire c'est que le trope du la figure du père, le quarantenaire qui accompagne une gamine, etc. C'est quelque chose d'assez commun et effectivement bah. Là, on a facilement tout le parallèle, peut-être un peu trop appuyé sur justement sa fille, donc qui croit revoir dans une foule à Jacksonville, etc.
Jackson.
Ouais, c'est pas Jacksonville.
Non, c'est juste Jackson.
Ville. C'est Jackson, la ville de Jackson.
C'est ça.
Et du coup, bah ouais, là, à nouveau, ça y est, quoi. Il y a le but ici aussi, c'est de renforcer à nouveau encore cette relation entre Ellie et Joël, avec encore une fois des séquences parfois vraiment très directement des toutes ces séquences. En fait, c'est ça qui est impressionnant. Moi, je suis assez fasciné par ça. C'est la capacité à reproduire des scènes à l'identique, mais pas toujours dans le même contexte.
Ouais.
C'est-à-dire que toi, tu t'as vu exact, tu pourrais prendre les scènes et les mettre côte à côte, ils vont parler en même temps avec les mêmes timings, mais ça, c'est pas forcément au même endroit, et ça a pas forcément la même direction, en fait, la même émotion qui est convoquée, en fait. Et ça, je trouve ça assez important. Et puis, du coup, ils repartent, et en fait, les étapes s'enchaînent, mine de rien. On est vraiment dans une série. Chaque épisode, quasiment, est une étape. Alors, il y a eu les deux épisodes précédents qui sont quasiment un diptyque, mais...
Sur celui-là, on a même... je dirais qu'on a deux étapes. On a Jackson et l'université. Entre parenthèses, Jackson, c'est une ville qui existe vraiment. Hein. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est une ville qui existe vraiment dans le Wyoming. Donc, j'imagine qu'ils étaient tous devant leur écran de télévision. Il y a eu plusieurs... bref, peu importe. Ouais. Mais...
ils arrivent après, du coup, à l'université.
Mais attends, sur Joël et Ellie, justement, et cette relation qui est... Enfin, ce moment complètement cathartique où, d'une part, Ellie comprend... On lui dit à ce moment qu'il avait une fille. Elle ne le savait pas jusque-là. Mais en même temps... Elle dit ce truc qui fait que ça fonctionne quand même. Elle dit « Well, that explains a lot ». Tu sais, c'est genre « Ah bah ok, tout colle ». Et tu comprends quand elle lui dit ensuite « I'm not her ». C'est pas qu'elle sait qu'il a une fille depuis 6 mois. C'est qu'elle a compris pourquoi il agissait de cette manière avec elle. Et du coup, ça fonctionne très bien. On a Maria, donc la femme de Tommy, le frère de Joël, qui... on comprend qu'elle essaye de la protéger et de dire « mais c'est une enfant, il faut qu'elle reste chez nous, il faut qu'elle soit machin ». Bon, elle ne sait pas encore qu'elle est immune, tout ça, mais... Donc, elle essaye de la protéger et tout ça s'emboîte assez bien. Et même le fait que Ellie, elle accepte finalement, parce que tu pourrais dire « bon, elle ne va pas vouloir, elle va pleurer, elle va demander à Joël de rester avec elle, machin ». Mais ce qu'elle lui dit, et qui est, alors là, c'est un dialogue repris à l'identique du jeu, tu pourrais dire, c'est pas assez fort, mais j'y avais pensé aussi au moment où j'avais fait le jeu, et quand elle lui dit, tu pourrais penser que je serais plus en sécurité si j'étais sans toi, mais la réalité, c'est que j'aurais juste plus peur, quoi. Je serais juste plus effrayé. Oui, pardon.
Ouais, non, mais c'est je récitais aussi le dialogue, quoi, qui est un dialogue vraiment très, très fort. Et du coup, quand tu disais, je revoyais du coup effectivement le truc original où en fait, et ça c'est une des plus grosses différences, c'est vraiment cette Ellie. Autant Joël, c'est un personnage bon, assez, tu sais, qui est quasiment le même. Les deux Ellie sont vraiment très différentes.
Ah, oui.
Et ça donne des tonalités, ça rend des scènes avec des dialogues identiques vraiment très différents, et notamment cette scène-là. Cette scène-là, je l'ai vue vraiment quelques heures avant de l'avoir vue dans la série, et c'est phénoménal dans les deux. Dans les deux, c'est phénoménal, cette séquence, et ça véhicule des choses aussi très, très différentes. Le caractère d'Ellie de la série est beaucoup plus... Elle est, bah d'ailleurs, ça c'est un truc qui m'a vraiment fait marrer, c'est quand elle arrive dans la ville et qu'elle insulte tout le monde, elle est vraiment à rentre dedans très vraiment agressive en fait. Hein, elle est...
Et c'est pas comme ça dans le
film ? Pas du tout, pas du tout.
Dans le film,
non,
dans le jeu.
Dans le jeu, elle a pas du tout ce caractère-là. Elle a des moments hein, où elle est un peu voilà, rentre dedans, mais elle est plus rentre dedans avec Joël et pas tant que ça avec les autres. Et je trouve que limite, la Ellie de la série est beaucoup plus réaliste dans son contexte, puisque du coup, elle n'a grandi que dans un monde, finalement, où il faut quand même dominer pour s'en sortir, etc. Et du coup, là, je trouve qu'on voyait vraiment cet aspect-là d'elle dans cet épisode-là, quoi.
D'accord. Donc, bon, tout ça fonctionne bien. Quand elle arrive... aux étables et qu'il est là et qu'il dit ouais je suis arrivé mais il y a une demi-heure et puis finalement j'ai pensé que elle le coupe, elle lui dit ok on y va, ça aussi c'est ouais. Tellement
ouais.
Ah, tu sais, même en y repensant ça me fait quelque chose, quoi, la manière dont elle n'argumente pas, elle dit pas oui ok machin, elle dit ok on y va, allez c'est parti,
allez, prends ton sac on y va,
ouais c'est je trouve que ça fonctionne tellement bien, et de mon souvenir c'est écrit comme ça aussi dans le jeu mais je me souviens plus. Bon, et donc, ils enchaînent sur l'université où là, effectivement, c'est aussi repris assez à l'identique avec le singe qui... C'est là le moment de la girafe ou pas ? Je me souviens plus.
Non.
Non, c'est plus loin.
J'ai un doute. Non, mais c'est pas là.
Ok, parce que comme il y a les singes, j'étais plus sûr. Mais c'est les singes des labos, quoi. On a cette scène avec, oui, effectivement, alors il y a plus d'action, il y a plus de combat dans le jeu, mais cette scène où ils se battent contre des sortes de raiders, de bandes de voyous qui les pourchassent. Et ce moment tout à fait désespérant où lui a été blessé et même il tombe du cheval et tu te dis mais qu'est-ce qu'elle va faire, quoi ? Qu'est-ce qu'elle va faire ?
Au milieu de rien, dans la neige.
Ouais. Et c'est un moment qui est aussi fort dans le jeu et dans la série, je trouve. Sauf que dans le jeu, tu peux enchaîner. Tu peux enchaîner tout de suite et voir ce qui se passe, alors que là, il faut attendre une semaine.
Là, il faut attendre.
mais ouais, je trouve que ça fonctionne très bien, cette partie aussi, quoi.
Donc voilà, donc il va rester 3 épisodes.
Mm-hmm.
Ce qui est à la fois peu... Et à la fois suffisant, j'ai l'impression.
Ouais, je crois. On va même pas parler de quoi que ce soit.
Non.
On va juste se dire qu'on se retrouve dans 3 semaines. Bah là, on est au moment où vous écouterez, ça sera presque le moment de l'épisode 7. Et donc, presque dans 2 semaines et demie. Bon, allez, dans 3 semaines à peu près. Et ah merde, attends. Je serai... Ah, ça va être compliqué pour moi de faire les choses la semaine du dernier. Donc, bon, on verra. Et en plus, oh, comment je vais faire ? J'ai un petit problème, là. Non, je vais me démerder. Pour voir le dernier épisode, parce que je serai avec la famille à Paris et on vit dans 20 mètres carrés. pendant une semaine. Donc, regarder The Last of Us avec les enfants, c'est compliqué. Mais je vais me démerder. Je vais me débrouiller. Voilà. Merci, Johan. Toujours, merci. Peut-être que, sans en parler, jusqu'ici, super satisfait. Toujours, genre, moi, je maintiens l'espoir que c'est la meilleure adaptation de quelque chose de gaming, enfin, d'un jeu vidéo que j'ai vu de ma vie. Encore une fois, avec ce bémol, oui, c'est facile d'adapter un truc qui est déjà super cinématographique, mais quand même. Et j'ai encore plus d'espoir parce que la fin, je crois... d'une série, et généralement, enfin, le milieu, c'est le ventre mou souvent, et la fin, bon, bah, c'est plus facile de faire quelque chose qui tient, donc je me dis, ah, peut-être que ça va marcher.
C'est vrai qu'il n'y a pas eu, je crois que c'est la première fois dans l'émission où il n'y a pas eu un moment où on dit, bah, ça c'est le ventre mou, donc il ne se passe pas grand chose, ou tu sais, où c'est un peu plus. Un petit peu plus lent, etc. Et on parle
souvent de séries Marvel aussi, forcément. Donc,
ouais, mais même en dehors, il y a eu des moments assez un petit peu en creux, et là, c'est pas le cas.
C'est vrai, c'est vrai. Donc, on va attendre de voir. Merci, Johan.
Merci.
Où est-ce qu'on te retrouve sur l'Internet?
Eh ben, on me retrouve sur Twitter. Et aussi sur le Discord, où bah, voilà, venez, on parle, que ce soit des séries, des films, des jeux vidéo, de la tech, etc. Et je vous accueillerai avec les autres avec plaisir.
Les liens seront dans les notes de l'émission, y compris le lien vers le Discord. Et pour ma part, c'est NotePatrick un petit peu partout. Et vous retrouvez également mes émissions d'actu tech et d'actu gaming, le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu. Si vous aimez les podcasts, ça vous pourrait vous intéresser. On vous fait des grosses bises et on se retrouve, allez, dans 3 semaines pour conclure la série The Last of Us. Bises, bises. Ciao.
Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.